Le business de la bouffe est très impacté par l'épidémie du Covid-19. Nous sommes finalement déconfinés, mais encore loin de la fin de cette crise inédite.
Ainsi, nous continuons à nous rapprocher des acteurs de la bouffe pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur initiative afin de s'adapter à cette nouvelle réalité.
Distanciation sociale oblige, nous favorisons les épisodes faits maison, enregistrés à distance. Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui est un grand adepte de la livraison des produits frais à la maison. Bonjour Philibert.
Bonjour à tous, bonjour Daniel.
Philibert, aujourd'hui on va parler des livraisons et notamment des livraisons des produits en frais. Notre invité est un expert dans la matière, il est le président des ChronoFresh, la filiale de la Poste et des ChronoPost qui depuis 2015 est devenu un acteur incontournable de la livraison sous température dirigée en France. Nous avons d'ailleurs évoqué dans beaucoup d'épisodes de Business of Bouffe, des acteurs de la bouffe qui travaillent aujourd'hui avec ChronoFresh. Donc nous sommes aujourd'hui avec Christophe Desjean, le président des ChronoFresh. Bonjour Christophe.
Bonjour Daniel, bonjour Philibert.
Alors Christophe, on a en effet parlé des ChronoFresh, donc comme je disais dans les podcasts avec Pour des bons, Frischti, Poiscaï, et donc on est ravis d'en savoir plus sur ChronoFresh et notamment sur l'impact de la crise sur ton activité. On se pose d'ailleurs la question de savoir si l'explosion du commerce alimentaire pendant la crise va être un phénomène durable et pas uniquement une réaction ponctuelle. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu pourrais d'abord nous présenter rapidement ChronoFresh ? On en parle souvent, mais on ne sait pas forcément très bien qui vous êtes. Quel est le lien avec La Poste ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer tout ça ?
Bien sûr. Alors, ChronoFresh, c'est une filiale de ChronoPost. Donc, ChronoPost qui est le leader de l'Express en France. Donc, qui s'est décidé à lancer une activité dédiée au transport de l'alimentaire en 2015. Donc ChronoFresh, c'est l'entité juridique, la filiale de ChronoPost qui gère l'ensemble des colis alimentaires, alors toutes températures confondues, puisqu'on fait de l'ambiant, on fait du frais et du surgelé également, sur l'ensemble du territoire français.
Ouais.
Et vous faites du surgelé, j'ai une petite question, parce qu'on va bientôt enregistrer un épisode avec la société Mémère, qui produit des glaces en fait, qui travaille avec Pour des bons.
Oui.
Donc par exemple, pour tout ce qui est glace, c'est un envoi avec quelle température
en ChronoFresh, on est sur du moins 18 degrés. En fait, le frais est transporté entre 0 et 4 degrés, le surgelé à moins 18.
D'accord. Et donc ça, c'est les types des services que vous allez proposer à des acteurs, par exemple, qui souhaitent envoyer de la glace ou de la nourriture pour le surgelé.
Encore une fois, alors sur le surgelé, on est plus sur un business B2B actuellement. On a moins d'initiatives en B2C, contrairement aux frais. Mais voilà, le B2B se développe bien, effectivement, sur le surgelé également.
Et justement, quel type de clients vous avez ? Enfin, c'est plus des producteurs, des distributeurs, des e-commerçants, comme on a parlé évidemment de Pour de Bon. Est-ce que c'est aussi des restaurateurs ? En ce moment, il y a beaucoup de choses, restaurateurs qui s'organisent pour livrer des choses, alors peut-être pas sur une aussi longue distance.
Effectivement, il y a des choses qui évoluent. Historiquement, nos clients représentent l'ensemble de la chaîne de valeur du monde de l'alimentaire. On part du producteur. Donc les producteurs sont nos clients, les grossistes, l'industrie agroalimentaire également. La grande distribution travaille avec nous sur certains segments, sur certains types de business. Et puis bien évidemment le e-commerce. C'est-à-dire que ça, ce sont nos segments de marché classiques depuis le démarrage de l'aventure en mai 2015.
Nous, la grande distribution, même si vous la concurrencez finalement.
Alors, on la concurrence, oui et non. La grande distribution se sert aussi de nous pour développer des filières, notamment des produits bio, des produits de producteurs, faire des opérations spéciales avec certains producteurs. Et ce sont des produits qui sortent des circuits de distribution standard en fait de la grande distribution. Donc là, les producteurs nous utilisent pour expédier leurs marchandises directement dans les super, les hyper ou les commerces de proximité, par exemple dans Paris, sur différentes enseignes. Donc là, le service ChronoFresh a un sens puisqu'on est on n'est pas sur la livraison en palette. Hein. Nous, on ne fait pas de la livraison en palette, on fait de la livraison de colis express.
C'est de la plus petite quantité, c'est ça. Pour la grande distribution, c'est ce que tu disais, ça leur permet d'avoir accès à un petit producteur ponctuellement et sur voilà.
Et faire une opération spéciale, un corner, pour mettre en avant un producteur sur certaines opérations. Et là, nous, on est capable d'aller livrer voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 10 colis, mais on va pas livrer 50 palettes. Voilà, ça, c'est pas notre métier.
Et sur ce point précisément, pardon Daniel, sur ce point précisément, au-delà du phénomène de la crise qu'on vient de traverser, enfin, dans lequel on est, tu nous parleras, est-ce que tu sens aujourd'hui qu'il y a une vraie demande qui est en croissance auprès de la grande distribution d'aller de plus en plus s'adresser et de pouvoir avoir accès à ces plus petits producteurs grâce à des services logistiques comme les vôtres?
Alors, je ne sais pas te dire encore si c'est un phénomène qui va s'accélérer. J'en suis persuadé au regard de tout ce qu'on lit, de l'actualité. Évidemment, la grande distribution va rechercher aussi, on entend parler de local, hein, va chercher à se sourcer sur des producteurs locaux de plus en plus, sur la filière bio qui est en plein développement. Voilà, donc ça, mais ça, c'était déjà le cas avant la crise. Il y avait une actualité. Alors, est-ce que ça va s'accélérer? J'ai pas encore la réponse aujourd'hui. J'en ai la conviction, mais j'ai pas encore les preuves de ça.
Je reviens juste sur quelque chose que tu as dit, Christophe, qui m'a attiré l'attention. Tu dis que tu travailles aussi avec l'industrie agroalimentaire. Quel type de services, en fait, ils peuvent te demander? En fait, quel type de produits l'industrie agroalimentaire va envoyer un colis, un petit colis?
Alors nous, on a des business, notamment, par exemple, hein, des business de produits boulangers. On a des business de sandwich préparés. On va les livrer des stations Total, par exemple. Des stations Total, pourquoi? Parce que ça fait un sens. On va pas aller livrer une palette de sandwich dans une petite station Total. On va aller livrer quelques cartons de réapprovisionnement et on va préférer approvisionner cette station service plusieurs fois par semaine. Parce qu'elle n'a pas forcément les capacités de stockage suffisantes pour stocker une grande quantité de marchandises. Et donc là, ChronoFresh a aussi un sens, on va dire, sur la transformation des circuits de distribution. Et ce que je dis là sur la partie station-service, c'est vrai aussi sur le développement des commerces de proximité et puis de la grande distri dans les centres urbains, puisque là, on est sur des petites surfaces de commercialisation avec des petites surfaces de stockage sous température dirigée. On est avec des produits, donc avec des DLC, hein, des dates limites de consommation. Et donc, du coup, la rotation du stock doit être un peu plus rapide. Et là, la livraison en grosse quantité de marchandises est un petit peu moins pertinente. Du coup, l'industrie agroalimentaire va préférer, ou alors les gros sites vont préférer envoyer plusieurs petites expéditions plusieurs fois par semaine qu'une grosse expédition une fois par mois.
Voilà. Je comprends, c'est leur permettre en fait dans leur stratégie d'avoir cette capacité d'avoir une distribution un peu plus capillaire en fait, un peu plus spécifique pour certains clients.
Et on est sur du flux tendu, voilà.
Et pour continuer sur le type de client, là je parlais de la restauration parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui et notamment de leur proposer une distribution. Est-ce qu'aujourd'hui dans vos clients, il y a des restaurateurs qui cherchent à livrer des produits frais? Alors, au-delà de la zone de proximité du restaurant?
Donc oui, on a été sollicité et on l'est encore par des restaurateurs, ou bien des groupes qui souhaitent se diversifier parce qu'ils ont compris que le e-commerce alimentaire, ils pouvaient s'adresser à eux également. Alors là, on est plutôt sur du service, puisque on connaît tous Uber Eats, Deliveroo et toutes ces autres sociétés qui font déjà de la livraison de repas préparés. Là, on est plus sur un service haut de gamme. C'est-à-dire qu'on est sollicité par des étoilés, notamment, qui nous demandent est-ce que vous sauriez nous monter un service de livraison plutôt dédié, avec un chauffeur formé à nos problématiques, un chauffeur qui pourra représenter aussi le restaurant quelque part auprès du client final, puisqu'on s'adresse évidemment soit à une clientèle professionnelle, soit à une clientèle un petit peu différente, avec différents modes d'achat, on va dire.
Plus exigeante, ouais.
Exactement. Donc là, on est sur un autre service et c'est quelque chose auquel on réfléchit fortement. Là, on teste des choses avec certains restaurateurs, mais je pense que c'est un service qu'il va falloir qu'on structure. Et qu'on devra déployer sur certaines grandes agglomérations, évidemment Paris pour commencer, mais sans doute sur des villes comme Lyon, Bordeaux.
C'est très intéressant parce qu'on a vu que les restaurateurs, mais notamment les étoilés qui faisaient jamais de la livraison, se sont mis à faire de la livraison pendant les confinements et continuent là à faire, parce que parfois
avec un certain succès.
Ça fonctionne.
Oui, et du coup, la question, bah, je trouve ça, c'est génial, en fait. Et est-ce que tu pourrais nous citer, par exemple, des restaurateurs avec qui tu travailles aujourd'hui? Est-ce qu'il y a déjà on peut parler d'apprentissage déjà de ces premiers tests? Qu'est-ce qui ressort de ces expériences-là?
Alors, aujourd'hui, voilà, notamment, je peux citer Thomas Boulot, hein, de l'Arôme, qui nous a sollicité dans ce cadre-là. Alors, j'ai envie de dire, vous avez interviewé Pour de Bon et Nicolas avec les producteurs. Il vous a raconté l'histoire de la mise en place de Pour de Bon. Mm-hmm. Il vous a raconté l'histoire des producteurs qui apprenaient à expédier, à faire du e-commerce. Les restaurateurs, c'est exactement la même
chose. C'est la même chose. Ouais.
Il va y avoir une grande et longue phase d'apprentissage.
Il y a un boulevard.
Pourquoi?
Ouais,
parce qu'il faut préparer les commandes. Il faut pas perturber, surtout quand on est dans un étoilé, il va falloir concilier à la fois l'activité de préparation de commandes, mais aussi le service, on va dire, classique. Et tout ça s'organise, c'est un apprentissage. Il va falloir définir les bons conditionnements, parce que à la fois pour assurer l'intégrité de la marchandise, mais aussi la présentation, parce que là on est sûr quand même, on livre pas qu'un burger, même si on peut avoir des burgers haut de gamme, évidemment. Donc il y a la prestation étoilée, la présentation fait partie de ce type de prestation. Donc il y a toute une réflexion à mener qui est pas encore mature chez l'ensemble des acteurs parce que c'est trop récent, mais c'est tout le travail qu'il y a à faire sur ce business-là. Et je suis convaincu qu'il y a vraiment un vrai service de qualité à monter autour de ça.
Et puis, il faut qu'économiquement ça soit viable parce qu'il faut que le coût de la logistique soit absorbable par le coût de vente d'un plat ou d'un plateau. Et après, il y a aussi le sujet environnemental, évidemment, c'est l'impact carbone de la livraison d'un plat, mais il y a peut-être des choses à imaginer pour aller dans ce sens.
Bien sûr, sachant que tous les transporteurs, y compris nous, on réfléchit et on investit fortement dans les solutions propres. Donc de toute façon, c'est inéluctable. On y passera tous et c'est important qu'on se transforme tous dans ces domaines-là, que ce soit. On sait qu'avec quand on a des véhicules sous température dirigée, la solution électrique n'est pas encore mature, mais on a des alternatives en GNV qui sont déjà bien, mais l'électrique viendra un jour, j'en suis convaincu. Donc c'est aussi des préoccupations à la fois de nos clients et puis les nôtres également.
Est-ce que dans vos réflexions, en fait, vous considérez, parce que les vélos à Paris, ça devient un mode des transports, des livraisons presque incontournable. Est-ce que vous avez des réflexions autour de la livraison réfrigérée en vélo, peut-être des vélos adaptés avec des petits coffres où on peut maintenir une certaine température?
Pas à court terme. Aujourd'hui, chacun son business. Encore une fois, nous, on est, notre métier, c'est d'organiser des tournées de livraison ou bien de mettre à disposition, puisqu'on a aussi une activité de location de véhicules avec chauffeur, de mettre à disposition de nos clients les moyens pour organiser leur livraison. Ce petit type de véhicule nécessite une capillarité avec des infrastructures. On va avoir un driver qui est capable, qui va faire presque du point à point, il va faire une course à chaque fois. Nous, on organise des tournées de livraison, d'accord ? Donc nous, on va aller prendre en charge, pour un chef étoilé, par exemple, 10 commandes, et on va organiser la tournée de livraison. Donc 10 commandes d'un chef étoilé, difficile de faire gérer ça un vélo cargo, par exemple, réfrigéré. Et puis encore une fois, nous on travaille sur également l'image du chauffeur, sur ce type de prestation nos chauffeurs sont en cravate. Je dis pas qu'on le fera sur tout ce segment là, mais en tout cas sur les étoilés c'est ce qu'on fait. C'est pas complètement le même business quand même. Donc les moyens de livraison aujourd'hui sont restent des véhicules légers dans Paris. Toute la stratégie, c'est de développer nos infrastructures dans les centres-villes et aux abords des centres-villes pour pouvoir avoir des densités de tournées suffisantes sur certains secteurs, à la fois pour respecter les créneaux horaires de livraison et puis ne pas avoir des tournées qui font des bêtises, mais 70 km dans Paris.
Voilà. Ça, 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 c'est un point très intéressant sur la restauration, parce qu'on a beaucoup, si on pose cette question, c'est parce qu'on sait qu'on a beaucoup de restaurateurs qui nous écoutent et ça peut leur donner des idées. Et donc, on les invite à réfléchir à ça et à, évidemment, à faire quelque chose de raisonné et raisonnable. Mais il y a certainement des pistes et des potentiels de développement. Si on revient à ChronoFresh, au global, la couverture aujourd'hui, vous pouvez livrer dans toute la France. Enfin, vous avez le maillage et le réseau qui permet de livrer un produit frais dans toute la France.
Et en Espagne. Puisqu'on fait partie d'un groupe, hein, du groupe DPD Group, et puis l'Espagne a lancé une filiale qui s'appelle Seo Frio, qui fait du frais. Donc on est capable de faire ce qu'on appelle du cross-border entre la France et l'Espagne de produits frais. Et là, on lance en septembre la même chose en Belgique. Donc avec le groupe, c'est DPD Fresh qui va se lancer en Belgique. Et donc là, on va pouvoir expédier de France des produits sur l'ensemble de la Belgique. Et inversement, nos amis belges vont pouvoir nous expédier des produits alimentaires en France grâce à ChronoFresh.
Intéressant. Bah, c'est pour les producteurs aussi et pour certains acteurs, c'est un nouveau marché qui pourra s'ouvrir pour les frais, quoi.
Ah bah, de toute manière, c'est un peu notre ADN. Hein. Dès qu'on est arrivé, les producteurs ont tout de suite vu l'opportunité pour eux de voir leur zone de chalandise exploser, de passer d'un territoire local à un territoire national. Et puis, bah, demain, pour un producteur, un territoire international. Donc là, leur capacité à mettre en avant et à vendre leurs produits va se démultiplier au fur et à mesure de notre déploiement en Europe, puisque c'est notre volonté, hein, c'est vraiment de déployer la solution de transport alimentaire sans température dirigée sur l'ensemble du territoire européen.
Et une question qu'on est très curieux ici, hein, Christophe, et on a une question par rapport au volume d'affaires. Je ne sais pas si la Poste t'autorise par les chiffres et quel type de chiffres tu peux communiquer, mais est-ce que tu peux nous donner des idées des grandeurs, soit de chiffres d'affaires, des ChronoFresh, ou soit volumes, des colis?
On communique pas sur notre chiffre d'affaires, on communique sur le nombre de colis effectivement qu'on transporte. Bah, je peux vous donner aussi des KPIs. Avant et après Covid, hein, on était plutôt, avant le Covid, à 10 000 colis jour. Ouais. Et on est passé, durant la phase de Covid, à 40 000 colis jour. Voilà. Donc, ça, on a
explosé. 10 à 40 000 par jour. Ouais, parce que on se souvient, on avait enregistré un épisode avec tout début de la crise avec Nicolas Machard, CEO de Tourdebon, qui nous disait qu'au début du confinement, il connaissait une croissance de 1000%.
Mais il a fait x10.
Au global, il a fait x10. Donc toi, tu dis, vous êtes à x4 sur la durée, sur les deux mois de confinement en moyenne par rapport au rythme que vous connaissiez avant.
Et c'est une tendance qui, évidemment, se tasse un peu, mais qui reste très forte. Enfin, je veux dire, on n'est peut-être plus à x4, mais on est à x3 en ce moment. Quoi.
Comment vous avez fait justement pour absorber cette croissance de x4? C'est-à-dire que du coup, vous avez comment tu t'organises du jour au lendemain pour pouvoir répondre à l'explosion de la demande de
commerce en fait. Et tu as raison de le souligner, ça a été juste immédiat. Dès l'annonce du confinement, là où le business de Chronopost, on va dire que le business classique, s'est effondré, puisqu'il est une grosse part de B2B hein, chez Chronopost. Donc ça c'est vraiment tombé très fortement durant 15 jours avant à son tour de réexploser avec puisque Chronopost aussi est en ultra croissance sur son périmètre. Nous c'est dès le lendemain du Covid, dès le lendemain du confinement pardon, le business a tout de suite explosé. Alors effectivement, comment on fait dans ces cas-là? Bah, c'est très compliqué, comme vous pouvez l'imaginer, parce que on savait pas trop. Non, au début, c'était pas très drôle. On en rigole aujourd'hui, mais ça a été très compliqué. Donc, déjà, le premier sujet à traiter, c'est la question qu'on s'est tous posée, hein, avec les différents comités de direction du groupe, c'est est-ce qu'on continue l'activité? C'était la première question. Il y a beaucoup de transporteurs en France qui ont dit, OK, moi, je prends pas de risque, je veux pas gérer.
Pour les équipes.
Voilà, pour les équipes.
Ouais, pour les équipes. Exactement. D'abord, ouais.
Pour les équipes et puis même dans la capacité à faire, parce que on dit pour les équipes, mais de toute manière, on avait objectivement à disposition que la moitié des équipes.
Parce qu'il y a
il y avait des gens qui devaient garder leurs enfants, il y avait des gens qui commençaient à être malades. Voilà, ça a été un vrai challenge.
T'as la demande qui explose et en même temps, t'as moins de chauffeurs, pas suffisamment de camions, même si j'entends que du coup, en revanche, chez Chronopost, donc en sec, il y a moins de demandes, mais c'est pas les mêmes camions d'ailleurs, parce qu'il y en a, c'est réfrigéré, l'autre c'est pas réfrigéré.
Alors, bref, je sais pas. Attention, on est. Alors, c'est ce qu'il faut retenir de ChronoFresh. on est sur un principe de mutualisation avec la flotte Chronopost, c'est-à-dire sur les zones très denses comme Paris et l'Île-de-France, on a des véhicules sous température négligée, et toute la force du modèle, et là on s'est inspiré d'un modèle japonais, hein, puisque c'était le seul marché mature au monde quand on a commencé à imaginer cette solution, donc on a été voir comment ils exploitaient, c'est toute l'intelligence du système, c'est que dans un pour adresser l'ensemble des codes postaux français, donc même en zone rurale, on est capable d'aller collecter et livrer tous les codes postaux français tous les jours. C'est là où on va utiliser un véhicule standard dans lequel on va mettre ce qu'on appelle une grosse glacière rouge, voilà, je l'appelle comme ça, ouais. Avec une puce RFID à l'intérieur. On va mettre 3, 4 points, 5 points de livraison dans cette caisse. Et cette caisse, on va la charger avec du trafic normal.
C'est ce qui nous permet... À la fois du tempéré et du froid.
Exactement. Et c'est toute l'intelligence du système pour produire aussi des prix compétitifs. C'est-à-dire que si j'avais dû mettre des véhicules sous température dirigée sur la route sur l'ensemble du territoire, on ne serait pas du tout sur les mêmes prix de vente.
Et aussi réduire l'impact carbone, parce que du coup, tu optimises les flux.
En plus, on mutualise. Exactement. Et donc, on est capable aussi, alors indirectement, puisque Chronopost investit beaucoup hein, sur les véhicules électriques en standard, on est capable aussi de mettre une caisse sous température dirigée dans un véhicule électrique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les solutions propres, voilà, ce sont des choses qu'on connaît déjà.
J'ai le début de la réponse à ma question, c'est que vous allez utiliser la flotte disponible de Chronopost pour davantage faire de livraison en frais Chronofresh, c'est ça ?
Sur ces 15 premiers jours. Mais ouais. Après, ça s'est compliqué. Après, ouais. Ça s'est complexifié puisque, évidemment, Chronopost a aussi explosé. Donc, pour reprendre l'histoire, donc on s'est dit bon tous qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on a étudié, on a regardé déjà quelle était aussi notre capacité à protéger nos salariés sur le long terme. Hein, voilà, les équipements, on sait que les équipements c'était quand même un sujet. Donc on a activé tous nos réseaux, on a réfléchi à tout ça et puis on a pris la décision de poursuivre l'activité. On a communiqué à tous nos clients. Donc là, par contre, la contrepartie. Ça, c'est effectif réduit, distanciation sociale. Hein. Quelquefois, on a des chambres froides dans des agences qui font 100 mètres carrés. Voilà, on ne peut pas mettre 10 personnes à la fois dans cette chambre froide. Il faut organiser des vagues. Donc, du coup, qui dit organiser des vagues, ça veut dire faire plusieurs faisceaux de départ en livraison et donc pas forcément respecter nos délais, nos engagements initiaux de livraison avant 13 heures. Parce que notre engagement, c'est on prend en charge aujourd'hui, on livre avant 13 heures le lendemain. Donc on a détendu les contraintes de livraison, c'était une obligation, on n'avait pas le choix pour pouvoir assurer la continuité de service. C'était ça notre enjeu, comment on assure la continuité de service à nos clients. Et ça c'est vraiment le pari qu'on a réussi, tous nos clients ont compris évidemment, et puis c'était d'autant plus facile que tout le monde, on était tous chez nous. Donc, se faire livrer sur n'importe quel créneau horaire, c'était beaucoup plus simple que quand on est au boulot. Donc, tout le monde s'est dit, c'est la bonne solution, on avance comme ça. Donc, premier point, protéger tous nos salariés. Ça, c'était essentiel. Si on n'avait pas pu le faire, on n'aurait pas continué notre activité. Deuxième point, détendre nos engagements pour pouvoir monter l'organisation. Et ça, c'est la force hein, du réseau Chronofresh et Chronopost. C'est qu'on est très agile, on a une vraie capacité à s'adapter très rapidement, voilà. Puis on a des équipes vraiment très très compétentes et très très engagées. Ça, c'était vraiment aussi, c'est pas un enseignement parce qu'on le savait déjà, mais ça a été vraiment démultiplié durant cette crise.
Avec dans ces moments-là qu'on s'en rend compte davantage.
Ça a été un moment difficile, mais vraiment formidable. On a appris beaucoup de choses.
Christophe, oui. Juste une question, parce que tu parlais donc d'une augmentation x4, x5 du niveau d'activité. Cette croissance, elle était principalement drivée par qui en fait ? C'était des plateformes d'e-commerce ?
Bien sûr.
Qui poussait à la croissance ?
Donc évidemment, on a eu un peu de tout là dans cette histoire. On a eu nos clients historiques, donc on va dire nos clients historiques de box, de livraison de box hebdomadaire à domicile. Forcément, dans ce contexte-là, ça faisait d'autant plus de sens. Donc box avec les produits et les recettes hein, pour une semaine.
Tu peux citer des noms, donner des exemples si tu veux.
Bien sûr, on a Kitok, HelloFresh, Season. Kitchen Daily d'ailleurs qui s'est lancé durant cette crise, les commis, voilà, on a aujourd'hui on travaille avec tous ces acteurs là, ouais. Et eux évidemment ont vu tout de suite leur volume exploser puisque ils ne vendent pas qu'un produit, ils vendent aussi un service. Hein, ces modèles-là vous permettent de pas vous prendre la tête à la fois faire vos courses. Là, c'était plus difficile de faire ses courses, nos courses dans ce contexte. Et puis surtout, de pas penser à ce que vous allez manger demain soir.
C'est déjà les fameux cheat recettes.
Ouais, c'est ça. Exactement. Ces business-là ont pris vraiment. Ils ont déjà beaucoup de sens, mais alors là, c'était encore plus vrai. Donc ça, c'est les premiers business sur lesquels la croissance a été très solide et très rapide. Ensuite, on a eu des plateformes, évidemment, de producteurs comme Pour de Bon, mais ça, vous avez déjà raconté l'histoire avec Nicolas, qui ont vu leur volume exploser. Et là, on a ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que cette crise, elle a appris plus vite que prévu, plus vite que ce que nous, on avait prévu, en tout cas, aux consommateurs français, à consommer de l'alimentaire frais en ligne, à acheter de l'alimentaire frais en ligne. Ouais. Et elle a aussi, à l'autre bout de la chaîne, appris aux producteurs de manière accélérée, puisqu'on avait déjà beaucoup de producteurs qui travaillaient avec nous, mais pour tous les autres qui ont eu une production sur les bras, pour certains, hein, en disant « j'ai plus de clients, en fait, comment je fais ?» ils ont appris aussi de manière accélérée à faire du e-commerce. Hein. Ils n'avaient pas le choix. Et ils se sont lancés dans cette aventure. Et avec ChronoFresh, ils ont pu, encore une fois, adresser l'ensemble du territoire. Et de ce qu'on entend dire, de ce qu'ils nous disent, on parlait de l'activité pérenne, c'est des gens qui, pour sécuriser leur business, vont conserver une petite partie de cette activité de livraison particulière, même après la crise, parce qu'ils se disent, si demain ça devait de nouveau arriver, ce qui n'est pas improbable,
pas impossible.
Et puis
c'est toujours sain de diversifier ses débouchés, en plus c'est des débouchés directs, donc c'est toujours
exactement. Donc on a eu vraiment un apprentissage accéléré à la fois à un bout de la chaîne jusqu'au consommateur du e-commerce en fait. Hein. Tout le monde s'y est mis parce que il fallait y aller. On a travaillé également avec Rungis, Califrey, Rungis livré chez vous. Donc on a là aussi c'était une opportunité. Tous les grossistes du mine qui avaient soit des stocks de marchandises, n'avaient plus la possibilité de d'écouler leurs marchandises. Donc là, on a travaillé avec Califrey, qui est une plateforme e-commerce B2B cette fois, historiquement, et puis qui a dit aux grossistes avec la Semaris, écoutez, montons un projet B2C temporaire presque, pour vous soutenir durant cette crise. Et donc là, ça a tout de suite explosé sur les livraisons parisiennes. Ça a pris une ampleur phénoménale.
Mais justement, donc la question qu'on se pose, tu as commencé un peu à l'aborder, c'est qu'est-ce qui reste aujourd'hui après cette phase de confinement ? Est-ce que tu disais tout à l'heure que les Français avaient appris à utiliser la commande en ligne ? Est-ce que ça reste aujourd'hui ? Est-ce que tu le vois ? Alors, ça fait 3 semaines qu'on est déconfiné. Est-ce que tu vois qu'on est toujours sur un niveau de livraison en colifret qui est supérieur à ce qu'on avait avant ? Ou est-ce que c'est revenu complètement à la normale ?
On est totalement supérieur puisqu'on est là. Je pense que les volumes de ce soir, on va être autour de 25 000, 30 000 colis.
Donc
ça reste très fort parce que vous voyez, il y a aussi des usages, on va dire, sociétaux qui vont changer, le télétravail. On a tous découvert en tant que chef d'entreprise, on avait peut-être quelques réticences quelquefois à déployer massivement le télétravail. On mettait des petites gouttes dans nos organisations. Et là, on a découvert d'un seul coup que tout le monde en télétravail, du dirigeant, nous, même nos téléconseillers sur nos services clients ont tout de suite été en télétravail et on a vu que ça fonctionnait, que tout fonctionnait. Donc télétravail, des salariés qui vont
mieux qu'avant en fait.
Quelquefois mieux, quelquefois un peu moins bien, se redresse vite. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça se pilote. Vous voyez, c'était ça l'appréhension d'un chef d'entreprise. Comment je vais piloter ça ? Non, ça marche en fait avec tous les outils qu'on a. Ça fonctionne. Après, il faut trouver le bon modèle, le bon compromis. Il va falloir qu'on réfléchisse à ça maintenant. C'est ça les enjeux de ce qui va arriver, mais là aussi sur le télétravail, je pense qu'il va rester quelque chose d'important et une part de salariés qui va continuer à travailler en télétravail, au moins de manière partielle. Ça va être des livraisons alimentaires à domicile aussi demain. C'est des gens qui vont continuer à commander en ligne.
C'est que justement était une barrière, et surtout dans des villes comme Paris, en fait, où pour beaucoup de gens, quand ils sont pas à la maison, ils peuvent pas recevoir un colis, notamment du frais, qui doit être stocké dans un frigo assez rapidement. Et donc, à partir du moment où les gens travaillent plus souvent à la maison, ils auront plus des créneaux de disponibilité pour pouvoir recevoir ces colis à la maison.
Et donc, ils vont commander plus facilement. Je suis d'accord, complètement d'accord.
Et puis, on l'avait vu sur toutes ces plateformes, il y avait un vrai enjeu quasi marketing, c'est que les consommateurs ne comprenaient pas vraiment le bénéfice, ils avaient peur de commander en ligne, et parce que nous, on a eu la chance de travailler avec certaines de ces plateformes-là, et ce qu'on leur conseillait, ce qu'on essayait de pousser, c'est de créer de l'expérience qu'ils essayent une première fois, et en général, après, une fois qu'on a essayé, on se rend compte que c'est très bien, ça change la vie, c'est bien, et au moins, cette crise, elle leur a permis ça, c'est tous ces gens qui ont essayé, qui ont découvert le bénéfice de la livraison en ligne, ils sont pas obligés de le faire tout le temps, mais c'est clair qu'il va forcément en rester quelque chose.
Et ça, c'est un de nos partis pris depuis le démarrage du projet, c'est ce qu'on appelle chez nous la sécurité des denrées alimentaires. C'est-à-dire que déployer un service de transport express en France, c'est notre métier, on sait le faire. Voilà, on est génétiquement fait pour ça. Par contre, gérer le maintien de la chaîne du froid et les règles d'hygiène, c'est quelque chose qu'on a appris. Et c'est quelque chose sur lequel on a voulu tout de suite mettre, on va dire, des basiques, que ça rentre aussi dans notre culture. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on ne fait pas de concessions. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ce business du transport alimentaire, on le savait quand on a lancé le projet, allait s'ouvrir au grand public, ça allait plus seulement être un business B2B. Donc, et en s'ouvrant au B2C de manière massive, c'est quand même un prérequis, voilà, d'assurer le maintien de la chaîne du froid, de pouvoir suivre une courbe de température de la collecte chez le producteur ou chez le grossiste ou l'industriel, jusqu'à la livraison au consommateur final, que ce soit un particulier ou un restaurant ou un commerce de proximité, et puis de faire tout ça dans des règles d'hygiène qui sont conformes au paquet hygiène européen. Donc ça, c'est un basique qu'on a collé sur nos organisations, on a formé tous nos opérateurs dès le démarrage, et ça, pour nous, c'est quelque chose d'indissociable de la prestation de transport. C'est important, si on veut que ce business se développe, il faut qu'on apporte des garanties, évidemment, en matière de respect des délais et de services, et aussi et surtout en matière de respect de toutes ces règles qui régissent le monde alimentaire. C'est pour ça que nous, par exemple, on est certifié ISO 22000, qui était plutôt une norme dédiée aux acteurs de l'alimentaire. Et bien, on se l'a appliqué en tant que transporteur. Voilà, donc on en fait un basique, en fait.
Et Christophe, donc tu nous as parlé de l'impact de la crise sur l'activité des Chronofresh, des signaux que tu commences à voir suite au déconfinement qui font les volumes qui baissent pas trop en fait par rapport au niveau pendant les confinements, ce qui est très intéressant. Et est-ce que tu commences à te projeter dans l'après-crise? Quelles sont les leçons que tu tires déjà de cette expérience-là? Quels sont les axes de développement pour Chronofresh pour les années à venir? Est-ce qu'ils ont changé avec la crise? Est-ce qu'il y a des choses qui vont s'accélérer?
Alors, la première leçon, c'est que Chronofresh était là au bon moment. ça fait 5 ans qu'on existe et voilà. On a eu malheureusement cette chance, parce qu'on aurait préféré, je pense, tous ne pas vivre cette crise. Mais on a apporté vraiment un service aux consommateurs et aux professionnels, que ce soit professionnel vraiment pour se développer et ne pas rester sur le carreau avec sa production, et aux consommateurs pour découvrir et s'approvisionner en produits frais durant cette crise. Donc ça, c'est la première leçon, c'est que évidemment Chronofresh répond à un besoin. Voilà, il y a même si on n'avait pas de doute avant, on n'a plus du tout de doute en fait. Et le groupe, a vu aussi cette démonstration de puissance industrielle aussi qu'on a pu démontrer sur le marché sur ce secteur alimentaire. Et donc, ça pousse aussi le groupe à vouloir investir plus vite en Europe. Donc, les axes de développement dont tu parlais, c'est le premier sujet, ça va être de se développer plus vite que prévu en Europe. Donc sur des marchés dont j'ai parlé, dont l'Espagne s'est fait, la Belgique, on y va, on parle de l'Italie qui est aussi un marché porteur en matière d'alimentaire, UK aussi qui est un marché demandeur en service malgré le Brexit. On réfléchit à tout ça, ça va se complexifier mais on va y aller. On est un groupe européen, donc on va développer ce service au niveau européen.
Chronopost est déjà présent dans ces pays, j'imagine, donc du coup c'est le même modèle.
Alors c'est DPD en fait, c'est le groupe DPD. Donc en Allemagne, on a DPD Allemagne, DPD UK, Seur en Espagne, ça s'appelle pas DPD. Donc on a différentes business units en Europe. On adresse l'ensemble du territoire européen avec nos infrastructures en propre. Donc ça, c'est la première leçon. La troisième leçon, on va dire, et notre devoir maintenant, c'est face au volume qu'on a aujourd'hui, ça va être d'investir plus vite que prévu dans nos infrastructures. Donc là, on a d'ores et déjà mis à jour notre schéma directeur. On a, durant la crise, identifié des sites qu'on va devoir prendre, équiper, pour pouvoir gérer notre croissance. Parce que, bah, évidemment, nos infrastructures n'étaient pas prévues à la base pour gérer, même si on a 90 sites en France, hein, qui sont capables de gérer les frais, il va falloir qu'on augmente nos surfaces sur certaines grandes agglomérations, et notamment sur Paris et en Ile-de-France, où là, on a un schéma directeur très puissant qu'on va déployer dans les mois à venir, alors qu'on avait plutôt positionné ça un peu plus tard. Donc là aussi, on a un vrai boulot de reconception et de mise en œuvre plus rapide que prévu de notre schéma directeur.
Parfait. Christophe, on arrive proche de la fin, enfin, on arrive à la fin du podcast, donc on a une question rituelle, c'est plutôt un sujet, une question qui est personnelle, c'est de savoir comment tu vis cette phase de déconfinement. Est-ce que, par exemple, tu es encore en télétravail? Est-ce que, d'ailleurs, il y a encore, tu en as un peu parlé tout à l'heure, du télétravail dans votre structure? Et est-ce que tu aurais des bons plans déconfinement à partager avec nos auditeurs, des choses que tu as découvertes, des contenus, des choses que tu as découvertes dans cette période un peu exceptionnelle?
Alors non, je suis plus confiné, donc on n'est plus en télétravail. Même durant le confinement, on a nos équipes, évidemment, nos chauffeurs-livreurs, nos opérateurs sur nos différents sites, eux étaient sur le terrain, donc on avait à cœur aussi d'aller les voir régulièrement, donc avec toutes les protections requises, évidemment. Je crois que c'était important de soutenir l'ensemble de nos équipes durant cette période. Donc même durant la période de confinement, je me suis permis d'aller encourager, voir et prendre un peu la température sur le terrain, puisque nos opérateurs étaient sur le terrain tous les jours. Donc ça c'était important. Sur les apprentissages et encore une fois sur quelque chose que j'ai retenu, moi, de cette crise, et qui m'a vraiment quelquefois touché, parce que je trouve ça très sympa, c'est la vraie solidarité qui s'est créée avec nos clients. Ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. C'était des moments d'échange avec les différents dirigeants d'entreprise. On a beaucoup échangé sur, alors toi, t'en es où? Et leur question, c'était même pas, comment tu vas gérer mes colis? C'était, mais vous, vous faites comment? C'est vrai qu'on fait partie d'un grand groupe, donc on est réputé être un peu plus préparé, organisé avec des plans de continuité d'activité structurée. Donc, on a été sollicité effectivement par pas mal de nos clients pour savoir où est-ce que tu te fournis en gel? Est-ce que tu peux nous donner un bon plan? Est-ce que tu as des plans aussi pour les gants? Voilà, c'est quoi votre plan de continuité d'activité? Est-ce que tu peux nous aider? Enfin, ça, j'ai trouvé ça formidable et j'en parle avec bonheur parce que j'ai trouvé que c'était des bons moments d'échange
Que tu dises ça, Christophe. On a eu plusieurs acteurs de la bouffe et notamment beaucoup de tes clients, comme on disait au début, qui sont passés là dans les podcasts depuis 2 mois, depuis le début du confinement, de la crise. Et notamment, il y avait Quentin Vachet de Frichti, fondateur, cofondateur des Frichti, qui nous disait, nous, on a échangé avec des concurrents avec qui on n'avait jamais échangé depuis la création des Frichti, en fait. Donc, il y a plein de gens qui sont mis à discuter et qui se sont rendus compte que c'est pas parce qu'on est concurrent qu'on peut pas échanger des bonnes pratiques et aller vers l'avant.
Non. Et puis, nous aussi, on a évidemment échangé avec nos confrères transporteurs sur tous les dispositifs mis en place. C'est évident, mais j'ai senti une vraie solidarité se créer durant cette crise et c'est vrai que c'était un moment privilégié d'échange avec nos clients. Et j'ai vraiment apprécié ces moments-là. Voilà, ça a été très.
Espérons que ça reste dans l'après-crise.
Ça restera. On était déjà en très bonne relation avec nos clients, mais voilà, c'était un moment un peu spécial. Voilà.
Merci.
Voilà. Quant au bon plan, faites-vous livrer. Quand vous êtes en télétravail, faites-vous livrer des box, des produits de producteurs, de produits frais chez vous. Je pense que c'est ça le bon plan. maintenant.
Grâce à ChronoFresh. Bah, merci beaucoup, Christophe, pour tous ces éclairages sur l'activité de ChronoFresh qu'on connaît, mais on n'a pas les détails en tête. Donc, c'était super intéressant. Et c'est en plus au plein cœur des actualités du business de la bouffe en ce moment. Donc, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. Bonne journée.
Au revoir.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com.
À très bientôt.